Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 26 mai 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Burundi, Pierre Nkurunziza a félicité le vainqueur à la présidentielle Évariste Ndayishimiye. L'opposition va saisir la Cour constitutionnelle. Dans le nord du Cameroun, 2 soldats et 5 assaillants ont été tués dans une attaque djihadiste. L'armée américaine accuse la Russie d'envoyer des avions de chasse en Libye pour soutenir des mercenaires russes au service du maréchal Khalifa Haftar. Kaboul a libéré 900 prisonniers talibans en espérant une extension du cessez-le-feu unilatéral des insurgés. Pandémie de coronavirus dans le monde, c'est la levée prudente et progressive des restrictions dans plusieurs pays. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a félicité le général Évariste Ndayishimiye qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai. L'opposition confirme qu'elle va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Jacques Aristide nous en dit plus.
C'est sur son compte Twitter que l'actuel chef de l'État burundais a réagi. Je félicite chaleureusement le président élu Évariste Ndayishimiye pour sa large victoire qui confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet et aux valeurs qu'il incarne. Nous sommes des témoins privilégiés de l'histoire. Que Dieu bénisse le Burundi, écrit Pierre Nkurunziza. Candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le général Ndayishimiye a remporté la présidentielle avec 68,72% des voix, contre 24,19% à son principal rival, Agathon Rwasa. Le parti de ce dernier a déjà dénoncé ce qu'il appelle une mascarade électorale et un scrutin non crédible. Le CNL a confirmé son intention de saisir très rapidement la Cour constitutionnelle, même s'il estime celle-ci acquise au pouvoir. La communauté économique des États de l'Afrique centrale dit suivre la situation. La CEAC, qui réitère son soutien au gouvernement, appelle tous les acteurs politiques à la tenu à s'abstenir de tout acte de violence ou de haine et à privilégier le dialogue et les voies légales dans toutes les revendications liées aux résultats de ces élections. Si le recours de l'opposition est rejeté, le général Ndayishimiye, 52 ans, succédera au président Nkurunziza. Son investiture est prévue en août prochain.
2 soldats et 5 djihadistes ont été tués dans le nord du Cameroun dans l'attaque d'un poste militaire par des membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, selon un officier et un responsable local. La nuit dernière, des hommes armés venus du Nigeria ont attaqué le poste de Souéram, une bourgade située près de la frontière, a indiqué un colonel de l'armée camerounaise. L'armée américaine a accusé la Russie d'avoir envoyé des avions de chasse en Libye pour soutenir des mercenaires combattant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Les avions de chasse russes de 4e génération sont arrivés en Libye depuis une base aérienne russe après avoir transité en Syrie, où nous pensons qu'ils ont été repeints pour dissimuler leur origine russe, a indiqué le commandement africain de l'armée américaine. La Russie essaye clairement de faire pencher la balance en sa faveur en Libye, a déclaré le général Stephen Townsend, commandant de l'Africom, basé à Stuttgart en Allemagne. Comme elle l'a fait en Syrie, la Russie étend son empreinte militaire en Afrique en utilisant des groupes de mercenaires soutenus par l'État, comme le groupe Wagner, a-t-il ajouté. La Russie a toujours démenti toute implication en Libye. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, mène depuis plus d'un an une offensive visant à s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Les Émirats arabes unis et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement pour soutenir le GNA.
Le journaliste algérien Sofiane Merakchi, condamné à 8 mois de prison pour recel de matériel en lien avec des manifestations anti-régime, a été libéré ce matin après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Une 20aine de personnes, dont des journalistes et des militants du Irak, l'attendaient devant la prison d'El Arach dans la banlieue d'Alger. Il doit être jugé en appel le 4 juin. La France va mettre en place 3 vols quotidiens vers Alger et un pont maritime avec le Maroc pour rapatrier ses ressortissants bloqués par la pandémie de Covid-19, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Les vols sur Alger à partir de demain permettront le triplement des capacités aériennes, a déclaré Jean-Yves Le Drian. 7 vols hebdomadaires relient actuellement Alger à Paris. 6 Tunisiens sont morts et 14 sont en réanimation après avoir consommé de l'alcool frelaté au lendemain de l'Aïd el-Fitr. Au total, 39 hommes ont été intoxiqués dans une région rurale proche de Kairouan, a indiqué le directeur des services de santé de la ville, Hamdi Adri. Ils auraient consommé un dérivé du méthanol, a-t-il ajouté, précisant que des tests sont en cours. 2 fournisseurs ont été arrêtés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait au moins 347 000 morts dans le monde avec plus de 5 500 000 cas d'infection. Les distances de sécurité et les gestes barrières sont de mise pour éviter une deuxième vague. Le point avec Eric Manirakiza.
De nombreux pays ont franchi cette semaine un nouveau cap dans la levée des restrictions. Aux États-Unis, les Américains se sont rendus en masse sur les plages et dans les parcs lundi à l'occasion du long week-end du Memorial Day, journée de commémoration de tous les morts de guerre. À Madrid, les habitants ont bénéficié d'un premier allègement avec la réouverture des terrasses, des cafés, des restaurants et des espaces verts. Après des semaines de confinement très strict, le gouvernement espagnol a décrété 10 jours de deuil national à partir de mercredi en mémoire des victimes du coronavirus qui a causé la mort de près de 27 000 personnes dans le pays. En Islande, les discothèques fermées depuis 9 semaines ont rouvert. En Grèce, les tavernes ont rouvert lundi, une semaine plus tôt que prévu, pour soutenir le secteur de la restauration avant un retour espéré des touristes à la mi-juin. La pandémie accentue toutefois sa progression au Brésil, au Chili ou en Russie, où un nouveau record de décès en 24 heures a été enregistré.
Aussi, le gouvernement syrien a assoupli les mesures en levant le couvre-feu nocturne, rouvrant les mosquées et autorisant les déplacements entre les provinces. Par ailleurs, le président philippin Rodrigo Duterte a dit qu'il n'autoriserait pas le retour à l'école tant qu'un vaccin contre le coronavirus ne serait pas disponible. 25 millions d'élèves devraient reprendre les cours fin août. Tout en reconnaissant que cela lésait les jeunes au plan scolaire, il a justifié sa décision en estimant que le risque était trop grand. L'Union européenne et le Japon vont défendre une stratégie de relance économique ambitieuse pour sortir de la crise provoquée par la pandémie lors du sommet du G7 en juin aux États-Unis, ont annoncé leurs dirigeants. Le président américain Donald Trump veut organiser la rencontre à la Maison-Blanche. Ses homologues ont dit être prêts à venir à Washington si les conditions sanitaires le permettent. Le gouvernement afghan a libéré 900 prisonniers talibans, espérant encourager les insurgés à étendre le cessez-le-feu qu'ils ont décrété samedi. Le point avec Nani Talani.
Une centaine de détenus ont été présentés à la presse alors qu'ils quittaient la prison de Bagram à une 60aine de kilomètres de Kaboul. Quelques 900 prisonniers ont été relâchés selon le lieutenant-colonel Nazifullah Walizada qui supervisait l'opération pour le ministère de la Défense. Le Conseil national de sécurité avait annoncé ce matin l'imminence de ces libérations destinées à faire avancer la cause de la paix dans la poursuite du cessez-le-feu. Nous espérons que les talibans vont prolonger le processus de paix, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, Faisal Javid. Le futur dépend de la prochaine décision des talibans. Une source talibane a dit que c'est très probable qu'ils prolongent le cessez-le-feu de 7 jours si le gouvernement accélère la libération des prisonniers. Les talibans, qui avaient multiplié les attaques meurtrières contre les forces afghanes, ont décrété samedi un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours afin que leurs concitoyens puissent passer dans le calme la fin du Ramadan.
Le projet de loi chinois sur la sécurité à Hong Kong ne vise qu'une poignée de délinquants, a affirmé la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, cherchant à rassurer les investisseurs étrangers. Le pouvoir central chinois a déposé vendredi devant le Parlement un texte visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion à Hong Kong et a demandé dimanche son application sans le moindre délai. Le pape François recommencera dimanche à réciter sa prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique à Rome, devant les fidèles. Autorisé depuis une semaine à s'assembler sur la place Saint-Pierre, a annoncé le Saint-Siège. Depuis le confinement de l'Italie, le souverain pontife s'exprimait à l'intérieur du palais et pouvait être suivi par vidéo. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement ivoirien compte débloquer plus de 150 milliards de francs CFA pour aider l'exploitation agropastorale à faire face aux conséquences économiques du coronavirus. L'essentiel de ces fonds ira aux secteurs agricoles, dont le coton, l'anacarde, le riz, les veillas, le palmier à huile et les fruits. La production animale recevra 6,67 milliards de francs CFA qui seront répartis entre la filière porcine, la pêche artisanale, l'aquaculture et la filière avicole. L'économie nigériane a augmenté de 1,87% au cours des trois premiers mois de 2020 par rapport à l'an dernier. C'est une baisse par rapport au trimestre précédent à cause de la chute des prix du pétrole et du commerce mondial. Il s'agit du taux de croissance trimestriel le plus long et qui intervient alors que le Nigeria ne s'est toujours pas remis de la récession de 2016 qui a mis plus de 13 millions de personnes au chômage. Pour terminer, en Tunisie, les revenus du tourisme ont chuté de 27% au cours des trois premiers mois de 2020 à cause du COVID-19. Les touristes ne sont pas venus et les hôtels et les complexes hôteliers du pays sont restés vides. Selon le ministère des Finances, le secteur touristique pourrait perdre 1,4 milliard de dollars et 400 000 emplois. Le tourisme contribue à près de 10% au PIB de la Tunisie.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Sérédier, est de retour au FC Sion pour un bail de 2 ans, 7 ans après son départ du club suisse. Le contrat du milieu de terrain ivoirien avec Neuchâtel Zach Max arrive à son terme dans quelques semaines. Je suis très heureux de revenir au FC Sion, un club qui compte énormément pour moi, puisque c'est celui qui m'a permis de découvrir l'Europe. J'aime son public, j'aime tout ce que ce club représente, que ce soit pour moi ou dans le football suisse, a réagi Sérédier après sa signature. 1 an après la fin de ce nouveau contrat du milieu de terrain ivoirien, son pays accueillera la CAN, justement alors que de gros risques de report planent sur les différentes compétitions sportives. En raison de la COVID-19, la Côte d'Ivoire, elle, s'attelle à l'organisation de la CAN 2023. Dans la seconde ville du pays, à Boaké, la construction des infrastructures pour accueillir la grand-messe du football africain se poursuit. De Boaké, la correspondance de Siri Kibaro.
32 villas, des terrains d'entraînement et un stade qui passe d'une capacité de 25 000 à 40 000 places. À 3 ans de la grande messe du football africain en terre ivoirienne, les travaux sont bien avancés malgré la pandémie du coronavirus. Le groupe portugais Mota Engil Côte d'Ivoire, maître d'œuvre des chantiers, est à la tâche. Son directeur général, Bruno Thomé, estime à 48% l'état d'avancement des travaux dans la ville de Boaké.
32 villas, ils sont en bon stade d'avancement. Les stades d'entraînement sont en cours aussi. À stade de Boaké, c'est un petit peu plus difficile, mais nous sommes en cours. Nous avons maintenant 650 personnes ici. Avant le Covid, nous avons aussi 650 personnes, c'est-à-dire qu'on maintient toutes les personnes ici.
En visite récemment à Boaké, le ministre des Sports et Loisirs, Claude Paulin-Dano, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et c'est un homme satisfait qu'il est reparti.
Nous avons vu les chantiers évoluer avec une bonne vitesse malgré les vicissitudes et malgré les restrictions liées à la pandémie, à coronavirus. Nous avons vu une entreprise citoyenne engagée à tenir les délais. Nous repartons très satisfaits.
En ce qui concerne la reprise des activités sportives au niveau national, le ministre estime qu'il faut encore attendre.
C'est pas pour maintenant, parce que le sport met en contact. Or justement, l'une des mesures essentielles que nous devons conserver, c'est la distanciation physique et sociale. Donc ce n'est pas pour demain.
Initialement prévu pour 2021, c'est finalement en 2023 que la Côte d'Ivoire abritera sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Soit 39 ans après l'édition de 1984, remportée par le Cameroun. Siri Kibaro, Boaké, VOA Afrique.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound a été destitué hier de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est aussi président intérimaire de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi. Le Parlement congolais est majoritairement dominé par le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Quel avenir à présent pour la coalition CASH-FCC? Eddy Issango a joint à Kinshasa le président du groupe parlementaire UDPS, Léon Moubikaï.
Nous pensons que l'honorable Jean-Marc Kabound va d'abord recourir à la justice. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Il y a des irrégularités dans cette pétition. Il doit épuiser d'abord les voies de recours avant qu'on puisse penser à son remplacement. Mais jusque-là, on n'a pas encore pensé à son remplacement. Il faut vous rappeler.
Vous parlez d'irrégularité. Pouvez-vous nous en donner quelques-unes que vous avez constatées dans ce qui a été fait?
Il y en a plein. Hein. Selon la Constitution, quand un dossier est au niveau de la justice, le pouvoir législatif ne peut pas se saisir d'un dossier qui n'est pas encore tranché au niveau de la justice. Sauf nous savons que ce dossier est au niveau de la justice. Donc, il fallait d'abord qu'on vide les dossiers au niveau de la justice avant de l'amener au niveau du Parlement. Autre chose, c'est les délais même qu'on a utilisés pour traiter cette matière est largement dépassé parce que dans notre règlement intérieur, quand il y a une pétition, c'est à l'exemple. Donc tous ces éléments-là, pour s'assurer qu'ils puissent faire recours et quand il aura utilisé ses voies de recours, à ce moment-là, on peut penser à son remplacement. Nous ne pouvons pas penser au remplacement pour le moment parce que nous sommes convaincus que ceci a été fait dans l'irrégularité.
Hier, au cours de la même séance.
Ouais.
Les députés ont, ont voté pour que la justice arrête ses poursuites à l'endroit de M. Jean-Jacques Mamba, estimant que votre collègue qui l'avait accusé avait bien signé les documents.
Oui, mais c'est tout ça, ça fait partie d'une irrégularité que nous sommes en train de dénoncer dans cette pétition-là. Mais aussi, c'est normal que l'Assemblée puisse demander ça. C'est pas normal. Notre collègue Mamba est gouverneur d'immunité. On ne peut pas le prendre comme un mal pas comme ça et puis l'amener en prison. Il fallait qu'on, même dans un processus de flagrance, on devait normalement informer d'abord l'Assemblée nationale avant de les prendre.
Monsieur Jean-Marc Kabound a été élu premier vice-président dans le cadre de votre coalition. Mais que devient maintenant cette coalition dès lors que même l'UDPS menaçait de quitter la coalition si jamais Monsieur Jean-Marc Kabound venait à être renversé?
La coalition a quelques problèmes à résoudre, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse s'arrêter avec la coalition. Mais sinon, c'est une coalition qu'on doit revisiter parce que nous estimons qu'il y a des petites choses à régler dedans. C'est une coalition avec un accord qui n'est pas très connu. On doit revisiter cet accord-là et le mettre à la disposition de tout le monde pour que nous puissions comprendre réellement comment nous devons évoluer. Il y a des choses qu'on doit revoir dans la coalition, mais ce n'est pas arrêter la coalition, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas la seule raison qui peut nous pousser à arrêter une coalition.
Revisiter pour lui donner quelle forme? Parce que le FCC a la majorité au Parlement, vous avez la présidence de la République ou le président.
Le problème, ce n'est pas vraiment la forme de la coalition, mais c'est le problème de fond. Et nous estimons qu'il y a certaines clauses qu'on doit retoucher.
Comme quoi?
Il faut d'abord connaître de cet accord-là pour voir.
C'était le président du groupe parlementaire UDPS, Léon Moubikaï. Il était joint à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
2500 écoles fermées, 350 000 élèves sans accès à l'éducation. C'est la conséquence de la multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso depuis 2017. Selon un rapport de Human Rights Watch, les groupes armés islamistes qui ciblent des enseignants, des élèves et des écoles commettent des crimes de guerre et balaient des années de progrès ayant facilité l'accès des enfants à l'éducation. Pour en savoir davantage, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Souleymane Badiel, secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche.
Disons que la situation, elle est elle est difficile. Elle s'est même en tirée. Et c'est vrai que peut-être que les écoles et les universités aient été fermées depuis le 16 mars. Bon, on a l'impression que bon, la situation a évolué, mais ce n'est pas du tout le cas quand on regarde les différentes attaques qui ont lieu sur le terrain ces derniers mois. Dans tous les cas, déjà, au moment où on fermait les écoles et les universités à la date du 16 mars, nous étions déjà à plus de 2500 écoles qui étaient fermées dans un certain nombre de régions de notre pays. Et c'est énorme pour un pays comme le nôtre. On dit que ce sont des milliers d'enfants qui sont privés de leurs droits fondamentaux, mmh. qui est celui à l'éducation. Et vous voyez que le nombre de réfugiés internes a augmenté et continue d'augmenter. Et quand on parle de réfugiés internes, ça veut dire que ce sont des familles et leurs enfants, dont ceux qui sont scolarisés, qui sont obligés de fuir ces lieux d'attaque-là pour se réfugier dans d'autres lieux où les infrastructures ne sont pas en état également, en nombre du moins, pour pouvoir les accueillir et poursuivre leur scolarité.
Comment donc ces milliers d'enfants déplacés sont pris en charge? Que fait l'État et les partenaires de l'éducation du Burkina?
Il y a eu un plan au niveau des autorités, un plan d'éducation en situation d'urgence, mais véritablement, nous, de notre point de vue, ce n'est pas un plan qui était plutôt adapté, de sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire un bilan, et les autorités elles-mêmes n'ont pas fait un bilan de la mise en œuvre de ce plan-là pour indiquer ce qu'il a permis d'améliorer quant à la situation de l'éducation de ces enfants-là. C'est dans le cadre plus récent de la gestion de la maladie au COVID-19 qu'un autre plan qui repose essentiellement sur le recours aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement.
Le cours à la télé et sur Internet.
Exactement. Mais vous voyez aussi que c'est un plan très limité et qui ne peut pas répondre efficacement à cette situation, d'autant plus que des gens qui n'ont pas le minimum pour vivre, ce n'est pas d'une télé ou d'une radio ou d'une connexion Internet qu'ils peuvent disposer pour assurer une pour donner une éducation.
Souleymane Badiel est secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le Front social démocrate, longtemps présenté comme le principal parti de l'opposition, commémore ce 26 mai le 30e anniversaire de sa création. 30 ans après, le parti de John Frondi a perdu de sa superbe, victime de l'usure et d'une crise séparatiste dans son fief des régions anglophones. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Le 26 mai 1990, le Social Democratic Front, ou SDF, est fondé à Bamenda, capitale du nord-ouest anglophone, après une marche interdite par les autorités. La marche a été réprimée dans le sang, 6 personnes ont été tuées. Le SDF s'est rapidement imposé comme la principale force de l'opposition. À la présidentielle de 1992, John Frundi, son candidat, réalise un score de 36%, le meilleur jamais réalisé par un opposant depuis cette époque. Mais au fil du temps, le SDF a perdu du terrain. De 36% en 1992, le SDF n'a récolté que 3% en 2018. Une dégringolade que Njoya Moussa, analyste politique, explique par l'usure et les soupçons de connivence avec le pouvoir.
L'institutionnalisation du SDF a eu, entre autres conséquences, l'embourgeoisement de l'élite qui l'a coupé de la base. Le facteur le plus nocif est le soupçon de connivence entre le SDF et le RDPC.
Au SDF, l'on reconnaît ses faiblesses. Parfait Mboum, vice-président régional du parti dans le centre, ajoute que les mauvais scores du SDF résultent aussi du mauvais jeu du pouvoir.
Nous avons en face une dictature féroce, un système électoral incompréhensible, des libertés de manifestation quasi inexistantes, une justice embrigadée, des finances monopolisées.
Depuis 2016, le SDF souffre aussi du conflit séparatiste dans son fief des régions anglophones, une crise qui a fait environ 2000 morts et 500 000 déplacés selon International Crisis Group. Pour faire peau neuve, John Fundi a laissé émerger quelques nouvelles figures. À la présidentielle de 2018, le SDF a même présenté la candidature de Joshua Ossi, 50 ans. Mais ce dernier a très peu bénéficié du soutien des caciques du parti. Pour Njoya Moussa, cela augure des guerres de leadership qui risquent encore d'affaiblir le parti.
Le chairman arrive encore à jouer son rôle d'hégémon stabilisateur. Et une fois qu'il ne sera pas là, tout porte à croire que le SDF soit volera en éclat, sinon entrera dans une phase de crise de leadership.
Parfait Mvoum du SDF veut rester optimiste, mais pense que son parti doit se réinventer.
Le SDF doit faire sa mue, reconnaître nos erreurs. Il faut un nouveau discours, une nouvelle façon de faire.
Pour le SDF, rien ne sera plus comme avant. S'il avait bénéficié du statut de pionnier des luttes pour le multipartisme à sa création, il doit désormais évoluer dans un environnement plus concurrentiel avec une population qui a beaucoup changé depuis sa glorieuse époque des années 90.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la suite d'une étude démontrant l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus parue dans la revue The Lancet, deux organismes chargés de veiller à la santé publique en France se sont déclarés défavorables à son utilisation. Une décision qui survient au lendemain de la suspension par l'OMS de ses essais cliniques dans plusieurs pays par mesure de précaution. Arzouma Compaoré a joint le docteur Constantine Chienkou, directeur médical de la diaspora camerounaise aux États-Unis, affirmant qu'aucune des solutions annoncées jusque-là n'a été validée.
Le premier groupe de médecins ici aux États-Unis, Food and Drug Administration et le NIH, ont montré qu'il n'y a aucun avantage en utilisant l'hydroxychloroquine. Alors ils ont dit non pas, ils ont dérécommandé ces médicaments pour l'utilisation contre le COVID. Maintenant, nous trouvons la France qui décommande, la Chine, et je crois que universellement, nous sommes déjà presque en accord que l'hydroxychloroquine ne sera pas le médicament miracle. Il faut remarquer, dans le cas de COVID, que 80% des malades infectés s'auto-guérissent sans autre mesure, sans médicaments, sans rien faire. Il n'y a que 20% des malades qui ont besoin des soins. Alors, lorsqu'on dit qu'on a guéri certains malades du COVID en utilisant quel que soit le médicament qu'il y a au monde actuellement, c'est peut-être parmi ces 80% des malades qui se guérissent automatiquement sans autre mesure.
Qu'est-ce qu'on reproche exactement à l'hydroxychloroquine?
D'abord, quand on met l'hydroxychloroquine, parce que pour prouver qu'un médicament marche, on donne le placebo à certains malades et on donne l'hydroxychloroquine à d'autres malades. On compare deux groupes. D'une part, on n'a trouvé aucune différence. Ceux qui étaient sur l'hydroxychloroquine n'ont pas donné un résultat plus positif que ceux qui n'ont rien pris, d'une part. D'autre part, l'hydroxychloroquine provoque des problèmes cardiaques, ce qu'on appelle la prolongation d'un intervalle PR, ce qui fait que ça donne les arythmies cardiaques. Et pour certaines personnes qui sont déjà susceptibles, ça mène à la mort subite. Et pendant ces essais que les Chinois ont dit, que les Américains ont fait et que les Français ont fait, ils ont découvert que ça met beaucoup de malades en péril sans donner des résultats fiables. Ceci dit qu'on prend des risques pour rien.
Faut-il attendre que un remède ou une formule soit validée avant de l'utiliser? Et que faut-il faire?
Non, nous ne disons pas cela. Nous disons que ce soit que les remèdes traditionnels de village, que ce soit la chloroquine, tout ça sont des essais. Et nous disons que nous devons tout essayer. En l'absence de médicaments ou de vaccins qui a été validé, nous essayons tout ce qu'on peut, autant qu'on peut. Par contre, nous avons des avancées très poussées aux côtés des vaccins. Il y a surtout le vaccin de Oxford qui s'appelle Chimpanzee Adenovirus COVID Coronavirus Vaccine. Il est très avancé en ce moment. Nous avons aussi un vaccin américain qui est très avancé. Et c'est le vaccin Moderna qui est produit par une société à Boston en association avec Allergy and Immunology Institute ici aux États-Unis. Nous avons des vaccins très avancés qui pourront, n'est-ce pas, en 12 mois être utilisés et applicables sur la population. Mais à l'heure actuelle, il n'y a ni médicaments ni vaccins.
C'était le docteur Constantine Tchienkou. Il était joint ici aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée à toutes et à tous.